un journal présenté ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Un jeune, une solution. C'est le titre du plan d'emploi de Jean Castex en direction des jeunes. 750 000 d'entre eux arrivent à la rentrée sur un marché du travail très dégradé. Il a détaillé ce plan à Besançon où nous irons en début de ce journal.
Le plan de relance post-Covid, gros morceau du budget 2021. Bruno Le Maire veut que la France retrouve en 2022 son niveau de richesse d'avant la crise.
Aux États-Unis, les manifestations continuent dans la foulée du mouvement Black Lives Matter. À Portland, les mères de famille battent aussi le pavé. Nous serons dans l'Oregon dans un instant.
En Méditerranée, le bateau Ocean Viking interdit de naviguer. Problème technique, selon les autorités italiennes. Fausse excuse pour les humanitaires.
Un jeune, une solution, c'est donc le titre du plan d'emploi de Jean Castex en direction des jeunes. 750 000 d'entre eux arrivent à la rentrée sur un marché du travail très saturé. Le gouvernement a décidé de mettre le paquet pour soutenir l'emploi des jeunes parce qu'en temps de crise, ce sont eux qui morflent les premiers. Les mots sont du Premier ministre qui présentait donc ce plan à Besançon. 6,5 milliards d'euros pour 2 ans pour faire face aux difficultés. Le gouvernement a voulu se montrer en force sur le terrain avec le Premier ministre Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne et Frédéric Vidal. Visite dans une entreprise de microtechnologie. Reportage à Besançon, Lisa Guyenne.
Près de 3 heures de visite et un Jean Castex très à l'aise avec les salariés.
Nous ici, on fait du médical, l'aéronautique et tout ce qui est luxe. Vous connaissez ?
Parfaitement, madame. Parfaitement.
Devant ces 3 ministres qui restent en retrait, c'est clairement lui qui mène la discussion. Jean Castex pose beaucoup de questions aux jeunes en formation sur le site.
Comment tu t'es lancé dans l'alternance ? C'était compliqué pour moi la fin du bac parce que c'était trop théorique pour moi.
C'est toi qui as fait la démarche.
C'est moi qui ai fait la démarche, j'ai fait un souhait.
Des témoignages pour dire que l'apprentissage ne doit plus être un choix par défaut.
Vous êtes fier d'être passé par l'apprentissage ?
Très très fier.
Est-ce que vous en faites de la pub ?
Et le Premier ministre de détailler devant les salariés le plan du gouvernement.
Si on veut rester performant, si la France veut rester présente sur tous ses marchés, il faut qu'on investisse massivement dans la formation. De ce point de vue-là, la crise, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on reçoit, des choses qu'on va utiliser pour encore plus former vers les secteurs comme le vôtre ici, de haute technologie.
Des promesses saluées dans l'ensemble, avec un regret tout de même de la présidente de région, Marie-Guide Dufay, déçue que les régions aient perdu la gestion de l'apprentissage. L'État a repris cette compétence depuis le 1er janvier dernier.
Voilà pour l'ambiance aujourd'hui à Besançon. Alors avec vous, Diane Berger, voyons maintenant le détail des mesures.
Alors, si une entreprise recrute un jeune de moins de 25 ans avec un contrat de 3 mois ou plus, elle touchera une prime, 1000 euros par trimestre. L'exécutif met également en place des aides pour les recrutements en alternance, entre 5000 et 8000 euros par apprenti. Et c'est aussi le retour des contrats aidés dans le secteur marchand, alors qu'ils avaient été supprimés par la majorité en 2017. Ce plan prévoit enfin 100 000 places en service civique, 200 000 places supplémentaires en formation, 300 000 parcours d'insertion pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Le budget de ce programme, 6,5 milliards d'euros. Le président de l'Union des missions locales, Jean-Patrick Gilles, salue l'effort.
Un jeune sur deux qui travaillait a perdu son emploi ou son contrat court s'est interrompu et n'a pas été renouvelé. Là, il y a un plan massif, c'est indéniable. Et on souhaiterait, par contre, qu'il y ait une insistance peut-être encore plus forte sur la formation, qu'il faut poursuivre leurs études, qu'il faut reprendre les formations, que la première chose à faire, c'est d'obtenir une qualification parce que c'est un passeport pour la vie.
Globalement satisfait, il regrette tout de même un autre détail, que le plan ne s'accompagne pas plus d'aides financières d'urgence pour tous ces jeunes tombés brutalement dans la précarité.
Des milliards d'aides pour l'emploi des jeunes, nous venons de le voir, mais aussi pour l'aéronautique, le tourisme ou l'automobile. Le Parlement a adopté cet après-midi le nouveau budget rectifié et ses nombreuses mesures d'urgence. C'est le 3e budget rectificatif depuis la crise Covid. Il entérine aussi une augmentation inédite de la dette publique, Marie Viennot.
Oui, de 90% du PIB, la dette publique devrait passer à 121% du PIB fin 2020. 20 points de plus en un an, c'est du jamais vu. Ce ne sont pas des comptes publics, mais des comptes de fées, a réagi à la tribune ce matin le président de la commission des finances, Éric Woerth. Également membre du groupe Les Républicains, Gilles Carrez veut lui aussi sonner l'alerte.
Tout le monde est en train d'oublier qu'une dette, un jour ou l'autre, ça doit se rembourser. La dette, c'est très bien aujourd'hui, ça nous permet de surmonter ces difficultés, mais financer par la dette les salaires, financer par la dette les baisses d'impôts, ça n'est pas sain Parce que l'argent magique, ça n'existe pas.
Alors quand les recettes s'effondrent et que les dépenses augmentent, il n'y a que deux choix de gestion, augmenter les impôts ou augmenter la dette. La majorité parlementaire, comme le gouvernement, assume ce deuxième choix. Laurent Saint-Martin, rapporteur du budget pour La République En Marche.
C'était ça où laisser nos entreprises sur le tapis et les emplois avec. Donc question de responsabilité, maintenant c'est le redémarrage qui est en jeu et à côté de ça, le débat d'orientation budgétaire met aussi en lumière la nécessité de savoir conserver un sérieux budgétaire sur toutes les dépenses courantes puisque vous avez la relance d'un côté mais vous avez aussi un État à faire fonctionner.
Et pour faire la part entre les dettes contractées pour répondre à la pandémie et les dépenses structurelles de l'État, Bercy va donc mettre à part dans le budget 2021 les dépenses de relance et les autres. Il a cependant déjà transféré 136 milliards de dettes de la Sécurité sociale à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ce qui veut dire que les assurés sociaux devront rembourser 9 ans de plus, ce que réprouve Christine Pires-Beaune, députée socialiste.
Sur le fait de cantonner la dette, oui. Le fait qu'elle soit reprise par la CADES et qu'elle ne soit pas reprise par le budget de l'État, donc par la dette de l'État, non.
Et ce texte plus obscur a lui aussi été voté aujourd'hui par les députés.
Et à Bruxelles, les eurodéputés, cette fois réunis en session extraordinaire, ont voté à une large majorité une résolution pour contester le futur budget pluriannuel de l'Union, négocié dans la douleur le week-end dernier. Ce budget auquel est adossé le plan de relance de 750 milliards d'euros décidé par les 27. Il dénonce les coupes claires annoncées dans certains programmes européens, la recherche, Erasmus+, ou la santé, et aussi le flou sur la condition de respecter l'état de droit pour obtenir des subventions ou encore le recours à des ressources propres pour financer le grand emprunt. Le Brexit, un accord commercial post-Brexit est peu probable à ce stade, sentiment partagé par les deux parties et Michel Barnier, le négociateur européen, souligne le peu de progrès accompli sur deux sujets cruciaux, la pêche et la concurrence équitable. L'ex-ambassadeur du Vatican en France sera finalement jugé en novembre prochain pour agression sexuelle. Monseigneur Luigi Ventura, accusé par 4 hommes, le prélat nie les faits. Le Saint-Siège a levé il y a 1 an son immunité diplomatique, ce qui a donc ouvert la voie aux poursuites. Get to the streets to fuck the police, le slogan sans embâche des manifestants de Portland. Alors que Donald Trump a annoncé hier qu'il allait déployer encore plus d'agents fédéraux dans l'ensemble du pays, eh bien dans l'Oregon, ils sont loin d'avoir rétabli l'ordre. La ville au centre de l'attention médiatique à cause des violences quotidiennes qui s'y déroulent en marge des manifestations Black Lives Matter. Nouveaux affrontements la nuit dernière avec un profil inhabituel pour les manifestants à Portland, Loïc Piala.
Elles sont mamans et elles sont en colère. Ces mères de famille crient « fuck the police » dans les rues de Portland. Depuis samedi, elles forment ce qu'elles appellent le mur des mamans pour protéger les manifestants.
Rappelez-vous, nous ne sommes pas ici pour nous. Nous sommes ici pour les Noirs qui ont besoin de justice.
À la nuit tombée, elles écoutent les discours contre les violences policières. D'autres manifestants pensent déjà à autre chose. Ils essaient de renverser les barrières qui entourent le palais de justice. Certains tirent des feux d'artifice, d'autres portent des boucliers de fortune.
C'est du bois, juste du bois. C'est pas grand-chose, mais ça protège des balles en caoutchouc.
Les fédéraux, rentrez chez vous, scande la foule. Les méthodes des agents déployées par Donald Trump font polémique. Alexis leur reproche de procéder à des arrestations arbitraires.
Le fait qu'ils embarquent des gens dans des véhicules non identifiés, même si c'est en marge de la manifestation, ça ne va pas du tout. Nous avons des droits dans ce pays. Enfin, normalement.
Et puis, un peu après 23h, les forces de l'ordre lancent les premiers gaz lacrymogènes. Le schéma se reproduit toutes les nuits désormais à Portland. Mais ceux qui quittent les lieux préviennent, ils reviendront pour la 57e fois. Les mamans ne sont pas les seules en colère.
Et le maire de Portland qui participait à la manifestation a dû être exfiltré après avoir été aspergé de gaz lacrymogène. Toujours aux États-Unis, Barack Obama fait une nouvelle incursion dans la campagne de celui qu'il appelle son ami Joe Biden. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux pour soutenir une fois encore son ancien vice-président en bonne position aujourd'hui. À New York, Loïc Loury.
15 minutes d'entretien pour une discussion un poil artificielle. Le décor est lambrissé, gants de boxe et drapeau américain en arrière-plan. Barack Obama et Joe Biden sont à bonne distance. Pandémie oblige, c'est bien sûr le thème du jour. Ce type, au milieu d'une pandémie, tente de retirer leur protection sociale à 100 millions de personnes avec des pathologies préexistantes. Je crois qu'il n'a aucune forme d'empathie. Une critique adressée à Donald Trump, qui ne sera jamais nommé. Ici, il est question de Joe Biden, candidat à la présidentielle et dont Barack Obama vante les qualités. Je sais à quel point les familles américaines sont importantes pour toi. La perte d'une seule vie, si elle est évitable, si tu es président américain, c'est ton boulot de tout faire pour l'éviter. Le clip de campagne se conclut sur un éloge appuyé formulé par l'ancien président. Si j'ai confiance en une chose à propos de toi, Joe, c'est ton cœur, ta personnalité. Le fait que tu sois né pour pouvoir reformer le genre de gouvernement qui se soucie des gens, qui les rassemble. Biden, en tête des sondages, malgré une campagne très discrète, s'offre un gros coup de publicité, même si cette vidéo rappelle que l'ancien président reste bien plus percutant que le candidat démocrate.
Loïc Loury à New York. L'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée immobilisé depuis hier soir en Sicile par les gardes-côtes italiens. Raison invoquée, des irrégularités techniques qui empêcheraient son retour en mer dans de bonnes conditions de sécurité. Mais pour les humanitaires, c'est une excuse pour le maintenir à quai. À Rome, Xavier Sartre.
Le constat des gardes-côtes italiens est sans appel. Les irrégularités de nature technique et opérationnelle relevées après une inspection de 11 heures sont de nature à compromettre la sécurité de l'unité de l'équipage et des personnes recueillies à bord. Autre grief, l'Ocean Viking a transporté un nombre de passagers supérieur à celui inscrit dans son certificat de sécurité en tant que navire de charge. Le bateau fait donc l'objet d'une rétention administrative jusqu'à ce que les points soulevés soient corrigés. Pour l'ONG SOS Méditerranée, l'argument de sécurité ne tient pas. C'est juste la dernière manœuvre trouvée par les autorités italiennes pour l'empêcher de reprendre ses opérations de sauvetage. Ce prétexte a été utilisé ces trois derniers mois envers quatre navires d'ONG, assurent les humanitaires. Stopper l'ambulance n'empêchera pas la blessure de saigner, écrivent-ils encore. Cette mise à pied intervient après une quarantaine de 2 semaines, instaurée après le sauvetage au début du mois de 180 personnes recueillies en pleine mer. Cette rétention administrative tombe au moment où les débarquements s'intensifient à Lampedusa, la plus australe des terres italiennes. Le centre de rétention de l'île est saturé. Près d'un millier de personnes s'y entassent alors que sa capacité d'accueil est 10 fois moindre. Les autorités italiennes craignent un nouvel afflux. Or, malgré la récurrence du problème depuis des années, elles sont toujours seules à y faire face.
Xavier Sartre. La situation toujours extrêmement dangereuse au Nigeria et les humanitaires sont régulièrement pris pour cible. 5 employés d'ONG internationales ont été exécutés par une faction du groupe islamiste Boko Haram. Ils avaient été enlevés en juin dans le nord-est du pays. Plusieurs organisations non gouvernementales alertent sur leur capacité à continuer à fournir de l'aide aux 7 millions de personnes qui dépendent grandement de leur soutien. Zoé Pallier.
Cet assassinat reflète l'immense difficulté à laquelle nous sommes confrontés chaque jour pour remplir notre mission. L'ONG française Action contre la faim réagit à l'exécution de son employé nigérian Ishaba Yakubu. S'en prendre aux humanitaires, c'est affaiblir encore plus les populations locales, explique Aliona Sinenko, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge au Nigeria.
Il y a beaucoup de zones aujourd'hui où nous n'avons pas d'accès, où on peut déplacer que par hélicoptère, parce que les routes ne sont pas sécurisées. Ça limite extrêmement notre possibilité d'accéder et d'apporter l'assistance humanitaire aux personnes qui en ont besoin.
Le CICR, qui a lui aussi perdu 2 de ses employés l'an passé, exécuté par le même groupe djihadiste ISWAP, Vincent Fouché, chercheur au CNRS.
ISWAP a toujours déclaré son hostilité aux travailleurs humanitaires, notamment les accusant de propager la chrétienté dans les communautés qu'elles aident. Et par ailleurs, ces enlèvements-là de cibles à haut potentiel visent avant tout les objectifs monétaires. Il s'agit de faire de l'argent.
Les rançons restent la principale source de financement des groupes terroristes au Sahel. Et ces enlèvements ne concernent pas que les humanitaires. Il y a 6 ans, Boko Haram enlevait 276 lycéennes à Chibok. Certaines ont été échangées, d'autres se sont enfuies, mais une centaine est toujours portée disparue.
Et puis on l'apprend à l'instant, Christophe Girard, l'adjoint à la culture à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, vient d'annoncer quitter son poste. Il a remis sa démission aujourd'hui après des attaques d'élus, après son audition en mars dans le cadre de l'enquête pour viol sur mineur qui vise Gabriel Matzneff. La météo, un temps ce vendredi marqué par des éclaircies, encore quelques averses sur les reliefs, sur la moitié nord jusqu'en vallée du Rhône. La journée sera nuageuse, de belles éclaircies partout. 13 à 18 degrés le matin, maximale comprise entre 20 et 30 et jusqu'à 36 dans le Var.